réplique l'islam et l'islamisme avec Tarek Oubrou et Mohamed Sifaoui. Le 22 janvier dernier, dans un entretien accordé au journal Le Parisien, l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, se prononçait sans détour pour l'interdiction par la loi de la burqa, qui, disait-il, n'a pas sa place en France, pays où les femmes votent depuis 1945. Chalgoumi bénéficie depuis lors d'une protection policière et un collectif manifeste tous les vendredis devant la mosquée en réclamant le départ de l'imam qui milite pour un islam républicain et qui préconise un rapprochement avec la communauté juive. Le chef de ce collectif a déclaré « Il y a une mainmise du politique et du sionisme sur cette mosquée ». Si l'on en croit, en outre, les reportages parus dans la presse, les fidèles eux-mêmes sont partagés. Ils sont peu nombreux, semble-t-il, à suivre Chalgoumi. Un chercheur, cité par le Nouvel Observateur, va jusqu'à affirmer « Cela va devenir difficile pour lui de continuer à diriger la mosquée. On est une autorité religieuse tant que vos propres fidèles vous autorisent à officier. » En introduction à la question générale de l'islam et de l'islamisme, je voudrais demander à mes deux invités, le recteur de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, auteur chez Albin Michel de Profession Imam, et le journaliste, membre du Bureau National de SOS Racisme, Mohamed Sifaoui, qui publie chez Armand Collin « Pourquoi l'islamisme séduit-il ? Comment l'un et l'autre réagissent à cette affaire et quelles leçons ils en tirent ?» Tarek Oubrou.
Honnêtement, j'ai pas d'informations précises sur cet incident. Par contre, je me contenterai ici d'une posture de principe qui consiste à condamner la violence comme un moyen de contestation. On peut être d'accord ou pas d'accord. Il faut recourir à des moyens de civilité dans la contestation et les règles de la civilisation. Et on ne peut pas admettre la violence, surtout dans des lieux saints, comme la mosquée, d'entrer comme ça, de faire des contestations assez violentes dans la mosquée, c'est antinomique aux règles de la République, antinomique aux règles de l'islam lui-même. Par contre, on peut être d'accord ou pas d'accord concernant telle ou telle déclaration, mais je pense que les moyens ne justifient pas les fins, ne justifient pas n'importe quel moyen. Donc, honnêtement, je connais pas les tenants et les aboutissants
mais
de cette affaire.
Mais est-ce que Hassen Chalgoumi était présent au rassemblement du Bourget, par exemple?
J'ai pas d'informations.
Non, vous savez pas. Non. Est-ce qu'on en a parlé?
J'ai pas
assisté. Connaissance.
Franchement, j'ai pas assisté à tout.
Hein. D'accord. Mohamed Sifaoui, puis j'aurai des questions plus précises à poser sur ça.
Bon, alors, sur le problème que subit Hassen Chalgoumi, imam de Drancy, évidemment, il faut manifester en sa direction une solidarité sans faille. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis quelque temps. J'ai eu l'occasion de discuter à maintes reprises avec lui. Je connais ses positions, mais en fait, évidemment, vous les avez très bien résumées. C'est quelqu'un qui prône un islam compatible avec les valeurs de la République et qui, après que certaines chapelles aient essayé d'importer le conflit israélo-palestinien en France, avec toutes les tensions et la passion peut accompagner ce conflit, a essayé lui plutôt de jeter des ponts avec des membres des leaders de la communauté juive en essayant d'instaurer un dialogue. Voilà ce qu'il a fait. C'est est-ce que cela mérite une contestation? Et je rajouterais, ce qui est dommage à chaque fois, moi je suis content d'entendre Tarek Oubrou dire ça et cela ne me surprend pas, c'est-à-dire que qui évidemment il condamne ce genre d'agissement. Mais ce qui est dommage, c'est que des imams comme Tarek Oubrou ne prennent pas l'initiative d'aller le soutenir beaucoup plus fermement, beaucoup plus ouvertement, pour que justement un message clair soit envoyé à ces perturbateurs.
C'est ce que je viens de faire ici.
Bon, c'est ce que vous venez de faire, mais pourquoi ai-je choisi cette affaire? C'est parce que précisément, ce ne sont pas, me semble-t-il, seulement certaines chapelles, comme vous l'avez dit Mohamed Sifaoui, qui sont impliquées. Hassan Chalgoumi est l'imam de Drancy. C'est pas n'importe quelle ville, Drancy, hein, dans la mémoire commune française. Et on lui reproche, alors qu'il est l'imam de Drancy, ses liens avec la communauté juive, et j'ai du mal à saisir les contours de ce « on ». Il y a ce collectif Cheikh Yassine qui manifeste violemment semaine après semaine. On peut dire ça, c'est un petit groupe, c'est une secte. Mais, je l'ai dit, ses fidèles aussi marquent leur hostilité. Donc, voilà, me semble-t-il, un imam sans troupe. Un imam républicain qui plaît aux républicains, mais qui ne semble ne pas plaire aux musulmans, ni d'ailleurs aux journalistes qui ont fait le choix du multiculturalisme, parce qu'ils lui ont consacré des articles insidieusement défavorables. Et c'est cette situation que je trouve inquiétante. Qu'il y ait des gens violents, ça a toujours existé, mais voilà un imam abandonné par ses fidèles qui n'aiment pas le voir se rapprocher de la communauté juive. Il a participé, par exemple, au dîner du CRIF. Alors, est-ce que ça ne témoigne pas d'une crise plus générale dans la société, dans le monde musulman, en France?
Je pense qu'il faut relativiser un petit peu le phénomène quand on parle des fidèles de la communauté musulmane. On a tout dit, mais on n'a rien dit en même temps. Parce que ce qu'il faut mettre en relief, c'est la diversité des tendances qui traversent cette communauté. Il y a des gens plus ouverts, il y a des gens moins ouverts, il y a des gens plus frustrés, il y a d'autres qui sont plus à l'aise dans la société, etc., etc. Le dialogue interreligieux est devenu une culture suivie et respectée en France par les musulmans. Nous sommes engagés dans le dialogue interreligieux avec les chrétiens, avec les juifs, en tant que communauté spirituelle, en tant que composante de cette société. Nous sommes obligés moralement de discuter avec les autres dans une société qui est fragile, qui est crispée sur elle-même. Donc il faut prévenir. Moi je pense que les imams éclairés, avisés, doivent anticiper, doivent créer des ponts avec les autres communautés.
Mais le font-ils ?
Oui, ils le font dans le réel. Moi, je connais beaucoup d'imams qui sont engagés dans le dialogue avec les juifs, avec les chrétiens, sans frontières religieuses aucune. C'est devenu une éthique. Sauf que il arrive qu'on discute des situations qui font l'exception en quelque sorte.
Vous pensez donc, si je vous suis bien, que cette situation n'est pas la règle, c'est l'exception.
Dans le terrain, tous les imams sont de fait impliqués dans le dialogue interreligieux où il y a les chrétiens, les juifs, les rabbins, les imams, les autres composantes de la société. De fait, un imam ne peut pas être un imam uniquement dans une mosquée, il est également engagé dans la société, dans un dialogue interreligieux. Mais cette règle admet des exceptions, hein.
Enfin, vous faites la même analyse,
Non, pas du tout, parce que je sais évidemment qu'il y a des imams qui sont dans cette démarche de dialogue et de rapprochement, mais tout dépend de quels imams vous parlez, Tariq Oubrou. L'organisation à laquelle vous appartenez, et il est dommage, on aura l'occasion d'en reparler, vous êtes évidemment très critique à l'égard de votre propre organisation, mais vous ne prenez pas pour autant vos distances, parce que c'est une organisation qui s'est clairement affichée, je prendrai un exemple, on va pas revenir sur la question du double discours éternellement, mais quand même il y a quelque chose de très flagrant par rapport à ce sujet précisément. Par exemple, sur le site internet de l'Union des organisations islamiques de France, il est clairement écrit que parmi les objets de cette association, c'est de ne pas importer des conflits étrangers, etc. Or, pendant la guerre sur Gaza, ils n'ont eu de cesse, sur le même site, d'appeler à des rassemblements, de prêcher à tout le moins des discours assez assez détestable, je dirais, très à la limite, dans le l'ambiance générale. Rappelez-vous de l'époque où il y avait justement beaucoup de passion dans les deux communautés d'ailleurs. Le rôle, me semble-t-il, d'un imam, c'est justement s'il doit participer, ou le rôle d'un rabbin également, si ils doivent les uns et les autres participer à quelque chose, c'est participer à apaiser les esprits et à revenir à une certaine raison, parce que moi j'ai vu toutes les folies s'étaler sur la place publique dans des défilés, des rassemblements complètement surréalistes où on a fait tous les amalgames, où on a appelé à la haine, où il y avait y compris des hommes politiques qui marchaient derrière des pancartes, où on appelait les gens à tuer du juif, et ça c'est inacceptable dans une république. On peut, et je suis très critique à l'égard de la politique israélienne, et notamment celle-ci, celle de Netanyahou. Mais la critique d'un gouvernement ne doit pas amener les gens à essentialiser d'abord systématiquement l'ensemble des Israéliens et faire cet amalgame, parce que les musulmans qui sont les premiers à se plaindre contre la stigmatisation et les amalgames, leurs leaders, très souvent, je ne généralise pas, mais très souvent, les leaders communautaires musulmans, les religieux, enfin les islamistes, comme je les appelle, sont les premiers à stigmatiser l'autre et à faire tous les amalgames possibles et imaginables. Donc si vous voulez, vous dressez évidemment un tableau qui n'est qu'en partie vrai, parce que vous, oui, je sais, et j'ai lu votre livre avec intérêt, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, vous prenez cet échange, etc. Mais je pense que cet échange mériterait d'être clarifié, y compris dans les appels, parce que vous avez des chefs, vous avez des tribunes dans vos mosquées, y compris dans les appels à lancer, dans des moments comme ça, c'est-à-dire vous avez un imam, celui de Drancy, qui officie dans une ville qui est chargé d'histoire, qui a dit une chose toute simple. Il a appelé ses fidèles en leur disant « Cette ville est chargée d'histoire, je ne voudrais pas et je ne souhaiterais pas que des choses se reproduisent ici au nom de l'islam. » C'est fort louable, normalement. C'est-à-dire que chaque musulman doit se reconnaître dans ce discours. Or, ce qui s'est produit, c'est qu'il est aujourd'hui ostracisé, diabolisé, on le qualifie d'imam des juifs, suppôt du sionisme, etc., avec toute la charge négative et péjorative que cela peut comporter. Et tout ceci, alors oui, je viens de vous entendre condamner ici, maintenant, parce qu'on vous a posé la question, mais j'aurais, moi, préféré que des imams comme vous, quand même, puissent prendre une initiative assez forte, par exemple, organiser un rassemblement autour de la mosquée de Drancy, réunir un certain nombre d'imams et dire non. Et vous savez que cela n'est pas possible parce que l'UOIF, justement, en sous-main, et j'ai toutes les raisons pour le dire, l'UOIF est une organisation qui est en train de vilipender cet imam parce que son discours gêne. Il faut dire les choses clairement, Tarek Oubrou.
J'ai pas le même sentiment. D'abord, le IF n'a jamais appelé à tuer le juif. Sinon, je serais jamais un membre de l'UIF. C'est condamnable par la religion.
J'ai dit participer, pardon. Voilà. Excusez-moi. Participer à des rassemblements où on a dit ça.
On a besoin de telles organisations qui canalisent la contestation. Moi, je pense que, il y a les organisations, il y a une communauté qui est traversée par un ensemble de frustrations. La communauté musulmane en Occident, et notamment en France, l'état réel psychologique, socio-psychologique de cette communauté, c'est la situation de la frustration et la révolte à l'égard d'un certain nombre d'injustices réelles ou virtuelles. Moi, je pense que l'OIF, je ne vais pas faire l'avocat de l'OIF, dans le livre, j'adresse un ensemble de critiques à mon institution, parce que je pense qu'une institution digne de ce nom doit accepter la contestation et la critique de l'intérieur. Hein. C'est ma fonction également d'être fidèle à la justice et la justesse. Donc là, je suis très à l'aise avec moi-même, avec mes convictions. Et tout le monde sait mes convictions et mes idées. Mais je pense que l'union des organisations islamiques de France, elle est entre le marteau et l'enclume. Hein. Il y a une réalité de la communauté. Il y a des injustices également qu'il faudrait condamner. Et comment résoudre cette équation à deux variables c'est ça un petit peu la difficulté d'une institution. Mais la violence, la condamnation de l'autre parce qu'il appartient à une autre religion, etc., je ne pense pas que l'UIF a ce discours-là.
Mais alors, en même temps, il y a une vraie difficulté. Parce que c'est le point de vue de l'UIF que l'islam doit être distingué des formes violentes du radicalisme islamiste. Et en même temps, ces formes violentes ne sont pas condamnées, comme on pourrait le souhaiter, parce que on ne veut pas favoriser ce qu'on appelle la stigmatisation. Alors, y a toutes sortes de violences, mais on peut considérer que l'introduction de la burqa est une violence. Et j'ai cru comprendre qu'au rassemblement du Bourget, nombre de participants se sont élevés contre cette interdiction en disant « Vous insistez là-dessus pour stigmatiser la communauté musulmane ». Alors là, il y a un véritable problème. Et d'autre part, Tarek Oubrou, deuxième question, vous parlez de l'injustice. Une injustice qui alimente peut-être
réelle la frustration. Réelle ou virtuelle, j'ai bien compris.
Oui, alors réelle ou virtuelle, qui alimente la frustration et qui favorise peut-être la radicalisation, notamment d'un certain nombre de jeunes. D'un autre côté, les islamistes, et ça je me tournerai aussi vers Mohamed Sifawi, ne sont pas toujours, notamment les plus actifs, ceux qui passent, ceux qui vont jusqu'au meurtre, ne sont pas toujours des gens frustrés. Un exemple, un seul, Théo Van Gogh, l'assassin de Théo Van Gogh. Voilà, ce réalisateur est assassiné en novembre 2004, il est puni de son islamophobie et d'avoir participé au film d'Ayan Hirsi Ali, Soumission. Un film dénonçant la situation faite aux femmes par l'islam. Son tueur s'acharne sur lui, 7 coups de feu, il est poignardé, la gorge tranchée. Mais qui est l'assassin? C'est un Marocain, très bien éduqué, de la deuxième génération, et dont la photographie a orné un magazine quelques années plus tôt, qui faisait un grand dossier sur l'intégration des musulmans dans la société néerlandaise, d'autant plus qu'ils parlent très bien néerlandais. Donc là, on se dit, où est la frustration? Où est la frustration? Vous voyez, j'ai une double question à poser. La frustration explique-t-elle tout? Et pourquoi cette timidité quand il s'agit de condamner l'islamisme? Et pourquoi? Parce qu'on invoque la stigmatisation.
Non, je suis pas d'accord sur le fait de chaque fois, sous prétexte qu'il y a un risque de stigmatisation, il faudrait pas dire la vérité. Donc on est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas parce qu'on parle bien le néerlandais qu'on est équilibré dans sa tête. Il y a des gens qui sont déséquilibrés. Moi, on est dans les limites de la psychiatrie, l'ethnopsychiatrie, carrément, le délire mystique, en quelque sorte. Donc il faut connaître ces phénomènes un petit peu qui sont à la limite de la psychiatrie. Le déséquilibre mental, moi je côtoie des jeunes, etc., dont la pratique n'est pas une pratique spirituelle, mais mélangée avec de la psychiatrie, du déséquilibre mental, d'une fragilité intrinsèque liée à la nature de certaines personnes. Mais effectivement, la question de la burqa, elle est perçue dans notre culture occidentale comme une violence symbolique, hein. Et l'Union, il a souligné que c'est pas une prescription religieuse. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait d'évoquer tout le temps la stigmatisation. Voilà, on va giser sous la tyrannie communautariste. Sous prétexte qu'il y a un risque de stigmatisation, je dois me taire. Je refais cette posture.
Mohamed Sifawi.
Alors, d'abord, je voudrais quand même vous dire deux choses. Tarek Oubrou plus précisément, excusez-moi, je sens, ou en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu en lisant votre livre, et c'est ce que j'écoute en vous entendant ici. J'ai l'impression que vous êtes un homme torturé, c'est-à-dire que vous reconnaissez, et je le dis, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, hein, ne voyez là aucune attaque personnelle, on est en train de débattre des idées, évidemment. Je vois chez vous un islamiste qui a été pris en otage à une période de sa vie et qui a été atteint du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que d'un côté, et c'est ça votre discours, vous critiquez, vous êtes évidemment très critique par rapport à certains aspects de l'islam politique ou de l'islam intégriste, mais vous restez quand même très attaché à certains aspects de cette idéologie. C'est ce qui est dommage. À mon avis, vous êtes en train, parce que c'est encore une fois le sentiment que j'ai, vous avancez d'un pas et vous reculez de cinq pas. Par exemple, votre défense de l'OIF, pour moi, je vous le dis franchement, elle est irrecevable. Et je vais vous dire pourquoi elle est irrecevable. Parce que l'OIF, ou en tout cas les leaders de l'OIF, sont des coutumiers du fait. La diabolisation, la stigmatisation de ceux qui leur apportent la contradiction est devenue constante chez eux. Ils sont les premiers à crier au loup, alors qu'ils sont le loup, de mon point de vue. Je vous donne un exemple tout simple, personnel, que j'ai vécu. Il y a quelques années, j'ai fait une enquête pour France 2 sur Tariq Ramadan, le fameux. Liouïev n'était même pas cité dans ce reportage. Avant même la diffusion de ce reportage, Liouïev, sous la signature de Fouad Alaoui, rend public un communiqué où il demande à France 2 l'annulation et la déprogrammation de cette enquête, donc atteinte à la liberté d'expression, immixtion dans le travail journalistique, ce qui est inconcevable dans une démocratie. Et deuxième aspect, il me qualifie, je cite, en écrivant la chose suivante, Mohamed Sifaoui est connu pour être hostile au symbole de la religion musulmane. Vous qui êtes imam, vous savez ce que signifie ce genre de propos. Ce n'est ni plus ni moins qu'une excommunication qui est perçue par les mouvements les plus radicaux comme un appel au meurtre. Alors, je vais juste terminer par ça. Ça s'est passé totalement inaperçu, personne n'a condamné, etc. Et systématiquement, l'UOIF s'illustre par ce genre de sortie au plus haut niveau, c'est-à-dire chez leur premier responsable. Ensuite, sur la question que vous avez citée, sur les déséquilibres mentaux, psychiques que vous pouvez voir. Oui, moi aussi, j'en ai rencontré. C'est-à-dire, déjà, je pense que pour être intégriste, il faut avoir un grain, comme on dit. Mais il n'y a pas que ça. Je ne voudrais pas déresponsabiliser un certain nombre de militants. Vous omettez de préciser quand même qu'il y a depuis quelques années, et notamment chez les frères musulmans, une idéologisation effrénée de l'islam, une instrumentalisation politique de la religion musulmane. Moi, j'entends depuis plus de 20 ans où je travaille sur les mouvements intégristes, des gens, des jeunes et des moins jeunes, parce que ce sont pas que des gens me parlant quand il s'agit d'islam, de militantisme politique et très rarement de spiritualité. C'est-à-dire, on me parle de regroupement, de rassemblement pour dénoncer telle personne, etc., mais très rarement de Dieu. Et ça, moi, ça me pose un vrai problème. C'est pour ça qu'à mes yeux, une organisation comme l'UEIF n'est pas du tout crédible et ce n'est surtout pas une organisation qui représente le culte. C'est une organisation politique.
Mais est-ce qu'elle est représentative de la communauté musulmane?
Elle n'est pas. Alors, votre question est très importante parce que il y a une usurpation, il y a une vraie escroquerie. On est en train de nous dire que ce sont des gens qui représentent. Ils ne représentent rien du tout parce qu'ils ne représentent qu'une infime partie des 10% des musulmans qui ont décidé de centrer leur vie autour de la mosquée, c'est-à-dire les pratiquants et les gens qui sont dans une pratique assez assidue en se rendant régulièrement à la mosquée. Ils représentent que ce courant de pensée, un tiers ou un peu plus d'un tiers. Donc, parler au nom des musulmans, quand il y a 5 ou 6 millions de musulmans en France, alors qu'on ne représente que moins de 6% des musulmans français ou résidents en France, c'est une autre escroquerie, évidemment.
Tariq Obrou.
Vous savez, je ne veux pas être réduit ici à l'avocat de l'Union des organisations islamiques de France, qui est une institution aujourd'hui traversée par un débat aigu sur l'identité de cette structure qui a des origines que vous connaissez très bien et qui a évolué. Il y a tout un débat qui n'est pas médiatisé à l'intérieur de cette institution sur l'avenir spirituel, intellectuel, idéologique de cette institution. Il admet beaucoup de tendances, un débat est assez quelquefois très 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 chaud et qui est au sein de cette institution. Donc il ne faut pas présenter les choses comme un bloc monomorphe où il n'y a pas un débat, où les gens sont assignés à rester toujours dans la même posture. Moi-même, j'ai évolué. Les gens qui sont avec moi, ils ont beaucoup évolué parce que la réalité est toujours rebelle à notre idéologie. La réalité finit toujours par imposer sa sagesse en quelque sorte. Donc, moi, vous me reprochez le fait d'être dans l'UEF. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle et je suis très optimiste quant à mon rapport à l'être humain en général. J'ai une lecture théologique optimiste des êtres humains en général. Donc, je ne vois que les aspects positifs qui me permettent de vivre et d'agir positivement dans le monde. Je vois des aberrations dans mon institution, dans ma mosquée, dans ma communauté, dans la société, mais je ne vois pas le mal partout, parce que je suis optimiste. C'est ma nature.
Non, mais personne.
Des relations avec des chrétiens. J'ai même des relations avec l'extrême droite, parce que je pense que le dialogue, la rencontre de l'autre, est quelque chose de très important.
Mais dans quelle perspective ce dialogue? Parlons en effet de vous, un instant, Tariq Obrou. Il y a un problème aujourd'hui qui est celui, on n'ose plus parler d'assimilation, et même le premier ministre turc, Recep Erdogan, va répétant, paraît c'est un islamiste modéré, que l'assimilation est pour lui un crime contre l'humanité. Mais restons-en au mot plus modeste d'intégration. Cette intégration semble problématique. On l'a vu encore récemment avec l'affaire à Roubaix des Quick Halal, parce que les Quick, c'est pas n'importe quel restaurant. Quick, McDonald's, c'est le restaurant où vont toutes les familles. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de créer ou...
C'est surtout un restaurant où on mange mal.
C'est un restaurant où on mange mal, mais où tout le monde mange mal en même temps. C'est un restaurant, pour parler comme Frédéric Martel, mainstream. Donc, il y a une vraie difficulté. Celle-ci est peut-être anecdotique, mais... quand je vous lis Tarek Oubrou, je me pose la question de savoir si pour vous l'islam est l'englobé ou l'englobant de cette intégration à faire. Vous parlez, et les personnes qui s'entretiennent avec vous dans ce livre, justement, vous demandent de vous expliquer. Vous parlez d'intégrer la loi républicaine au sein du métabolisme de la charia. Donc vous vous démarquez aujourd'hui de l'intégrisme, même si vous continuez par fidélité à être membre d'une organisation qui, elle, ne s'est pas tout à fait défait de cette tentation. Et d'un autre côté, vous dites intégrer la loi républicaine au sein du métabolisme de la charia. Mais peut-être ce mot mérite-t-il éclaircissement, et toutes les équivoques, tous les malentendus vont être levés une fois qu'il sera éclairci.
Oui, c'est un travail théorique et théoritique qui éprouve le dynamisme de cette spiritualité qu'est l'islam. L'islam n'est pas une civilisation à l'origine, c'est une spiritualité qui, par la suite, s'est mélangée avec l'histoire et qui a produit une certaine civilisation. Ma thèse, c'est de présenter l'islam comme une spiritualité dans la civilisation occidentale et de ne pas venir avec une civilisation islamique dans la civilisation occidentale. Donc, il y a tout un travail théologique de désenvelopper du noyau insécable de la spiritualité musulmane pour l'envelopper par la culture occidentale, ce que j'appelle la théologie de l'acculturation. Donc c'est un travail théologien, c'est un travail herméneutique, c'est un travail très passionnant intellectuellement, très excitant intellectuellement. C'est ça ma consolation, parce que en voyant un petit peu ce qui se passe dans le monde, la réduction de l'islam à un phénomène politique et sociologique, ça me navre énormément. Ma consolation, c'est ce travail théologien que je fais pour les nouvelles générations. Ça pourrait paraître aujourd'hui comme un travail anachronique, mais je travaille à long terme pour laisser aux nouvelles générations musulmanes un travail érudit, un travail loin du vacarme médiatique, pour donner aux nouvelles générations un travail théologique, herméneutique, canonique, éthique, consistant.
Mais pourquoi vous ne parlez pas justement d'une intégration de la charia au sein de la loi républicaine?
Je l'ai expliqué.
Oui, mais justement, expliquez-le.
Ça veut dire, pour moi, la charia, c'est pas l'application mécanique d'un verset ou d'un hadith. Ce serait trop simplé et trop ridicule. La charia, c'est non seulement il faut appliquer l'intention du texte, mais l'intention de l'auteur. Or, l'auteur est invisible, donc il faut une lecture théologique a priori de ce Dieu. D'où l'importance de la question de Dieu lui-même, de quel Dieu s'agit-il, avant même de parler de sa loi. Donc je déplace le débat de la loi à Dieu lui-même. De quel Dieu s'agit-il? Parce que pour connaître la loi, il faut connaître le législateur. Se tromper de Dieu, se tromper de loi. Donc je décale un petit peu la problématique, parce que j'ai l'impression que l'islam aujourd'hui se réduit uniquement à la norme. Halal, haram, etc., coupé du sens, coupé d'une certaine dimension humaniste et historienne de notre existence. Donc voilà, c'est un travail que je fais à l'abri des tensions sociétales.
Alors, ouais, c'est fait, oui. Moi, vous m'intéressez quand je vous entends parler comme ça, et je suis très sincère. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, j'ai l'impression d'être... Je vous accuserai pas de double discours, parce que ça serait trop facile, et je pense sincèrement que ce n'est pas le cas, que c'est pas votre cas. C'est pour ça que j'ai préféré dire que vous étiez un homme torturé, que vous étiez quelque part atteint du syndrome de Stockholm, parce que ce que vous dites là m'intéresse fortement. Et je dirais, je souscris à certains aspects ou certains éléments que vous venez d'évoquer. Mais quand je lis encore une fois votre livre, ce n'est pas ce que j'entends. Quand vous d'un côté vous dites, et vous l'avez écrit, que le voile, par exemple, n'était pas une prescription religieuse normative sur laquelle il fallait pas du tout négocier, etc. Je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'ai toujours défendu. Et ensuite, plus loin, dans le même ouvrage, vous écrivez, et j'ai voulu justement le relever pour vous citer in extenso, vous écrivez « Je pense qu'exclure une femme de l'école à cause de ses choix vestimentaires personnels et contraires à la liberté, c'est une censure morale et une immixtion dans la vie intime des gens. »
Tu ne sais pas une grande civilisation.
Dans la vie intime des gens, bref, un comportement indigne d'une grande civilisation. Alors que là, vous êtes en train de nous dire autre chose.
Non, je confirme cette assertion. Je suis dans une double posture. La posture de ne renégocier la valeur d'une norme à laquelle on a donné une importance démesurée par rapport à sa valeur initiale, qui est devenue plus un problème identitaire, un conflit entre la communauté musulmane et la société, et la question de la tolérance. Donc voilà.
Oui, mais il y a, excusez-moi,
j'agis comme un canoniste en relativisant une norme, mais en tant que citoyen, s'immiscer dans la description, dans la norme vestimentaire, c'est pour moi une dérive contre le principe de liberté.
Non, ce n'est pas la norme vestimentaire, Tarakobou. Et vous savez bien, ce n'est pas la norme vestimentaire. Ce n'est pas la France qui s'immisce dans la norme vestimentaire. C'est le principe ou les principes de laïcité qui exigent que les symboles à connotation religieuse ne soient pas admis dans l'enceinte de l'école républicaine. Voilà de quoi il s'agit. Alors d'un côté, vous dites que le voile n'est pas une prescription religieuse, et vous avez raison de le dire.
Et d'un autre côté, vous dites importante.
Oui, ce n'est pas une. Si vous voulez, moi je considère que ce n'est même pas une prescription religieuse. D'un côté, vous dites que le voile n'est pas une prescription religieuse importante, pour reprendre votre terme. D'un autre côté, vous dites que la laïcité, c'est quelque chose d'extraordinaire, etc., parce que c'est une excellente protection pour les religions et du coup pour les croyants. Mais quand il s'agit de vous positionner par rapport à un problème concret, là, je vous vois essayer de vous en sortir par une espèce de pirouette intellectuelle où vous allez dire que le fait de réaffirmer des problèmes laïques serait indigne d'une grande les principes laïques seraient indignes d'une grande civilisation.
Parce que je pense que la laïcité il embrasse toutes les religions. Il n'est pas une religion à part, donc on a besoin de l'éthique de discussion d'Habermas, on a besoin d'une discussion, etc.
L'éthique de la discussion.
Et puis la votation, c'est lui qui tranche.
La discussion, en effet, pour la décision.
Oui.
Et il y a eu une très longue discussion sur le voile. Et vous donc, en effet, vous avez cette double posture, comme vous dites. D'autres avec vous condamnent cette interdiction du voile et parlent, je ne sais pas si c'est votre cas, d'islamophobie.
Et je ne parle pas d'islamophobie.
Oui, alors justement, mais c'est quand même un concept sur lequel je voudrais que vous prononciez l'un et l'autre. J'ai le sentiment, moi, que du fait de ce concept, il n'y a plus jamais de problème de l'islam, ségrégation des femmes, terrorisme ou autre. Il n'y a plus qu'un problème de racisme anti-musulman. Et on l'a vu même avec l'affaire des caricatures. Quand on a interrogé les musulmans européens sur cette histoire, on leur a demandé de quoi c'est révélateur, et ils étaient très peu nombreux à dire que c'était révélateur de l'intolérance islamique, et très nombreux au contraire à parler d'irrespect de l'Occident pour l'islam, donc d'islamophobie. Et encore une fois, ce principe a été invoqué pour condamner toute interdiction du voile islamique. Là, il faudrait prendre position là-dessus, Tarek Oubou.
Moi-même, j'ai réservé tout un sermon du vendredi sur la question des caricatures. J'étais contre ces manifestations et j'étais même contre le fait de porter plainte contre les caricatures. C'est débile Et je pense que pour moi, ça ne s'y est pas à une grande religion, parce que c'est un signe de fragilité. Et moi, je ne veux pas voir ma religion dans une situation de réaction à toutes les critiques. Donc, de ce point de vue-là, je suis un défenseur de la liberté. Donc, je peux pas en même temps, je ne peux pas être en porte-à-faux par rapport à ce principe. Donc, tout simplement.
Ouais, c'est ça, oui.
Alors, d'abord, sur la notion même du terme islamophobie, moi, en tant que militant antiraciste, et j'essaie d'expliquer ça à mon organisation, au sein du Bureau national de SOS Racisme, c'est un terme que je réfute totalement. Pourquoi ? Parce que son histoire nous renseigne que c'est un concept qui est né justement pour faire barrage à la liberté d'expression. L'un des premiers à l'avoir utilisé, ça a été l'ayatollah Khomeini, le fameux, là aussi, pour dénoncer les versets sataniques de Salman Rushdie, donc une œuvre littéraire, et j'estime qu'un imam, qu'un religieux, qu'une autorité religieuse, quelle qu'elle soit, n'a pas à s'immiscer dans le travail intellectuel, dans la réflexion, dans le débat public, et a fortiori quand il s'agit d'œuvres romanesques, etc. D'abord sur le principe. Ensuite, je me suis rendu compte, et durant ces dernières années, que ce terme très galvaudé, était utilisé à tort et à travers pour à la fois interdire la réflexion, le débat, la critique légitime, faut-il le rappeler, à l'égard des religions, des philosophies, des idéologies, etc., et le racisme anti-musulman. Le droit français, d'ailleurs, comme la plupart des textes régissant le droit en Europe, fait justement ce distinguo entre la critique légitime, voire nécessaire, des religions et le respect dû aux croyants en raison de leur religion. C'est-à-dire, en substance, la parole la plus excessive, la plus caricaturale, pourrait dire, et elle aurait le droit de le dire, que l'islam est une religion débile, mais on n'a pas le droit de dire que le musulman est débile. C'est ça la nuance qu'il faut expliquer. Et je pense que cette épée de Damoclès qui est mise sur la tête des intellectuels, des journalistes, etc., et qui les incite en définitive à l'autocensure aujourd'hui, c'est un cas, n'est plus acceptable. Donc moi, je préfère à la fois faire le distinguo entre le racisme à l'égard des étrangers d'une manière générale, des personnes d'origine maghrébine, ou des musulmans, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que, à titre personnel, j'ai décidé, il y a quelques semaines, de poursuivre le Front National pour son affiche raciste en PACA. Et
pourquoi à titre personnel?
À titre personnel, parce que on l'a fait avec SOS Racisme, mais à titre personnel, d'accord, j'ai voulu le faire parce que je suis aussi musulman, je suis d'origine algérienne, et je me sens attaqué par cette affiche qui attaque d'ailleurs ceux, les intellectuels algériens notamment, qui ont subi le terrorisme et l'islamisme avant même qu'ils ne se distinguent en Europe ou aux États-Unis. Donc ça c'était une parenthèse, mais disons que le militant antiraciste que je suis refuse catégoriquement d'utiliser le concept d'islamophobie qui est un concept biaisé.
J'avoue également que le terme islamophobie me pose quelques problématiques parce que on peut être musulman et taxé d'islamophobie parce qu'on ne partage pas la même lecture. C'est ça un peu le risque de ce concept-là. Hein. Dire musulmanophobie peut être à la rigueur, mais islamophobie c'est une religion. Donc on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, etc. etc. C'est un peu problématique. Mais peu importe les concepts, c'est leur définition qui doit nous apporter le plus.
Bien, alors maintenant, je voudrais en venir à la question très générale que nous avons déjà un peu abordée. Des rapports de l'islam et de l'islamisme. Tout à l'heure, vous regrettiez l'un et l'autre que la dimension spirituelle de l'islam puisse être oubliée au profit d'une version, d'une définition politique et même violemment politique. Mais la question que je me pose, c'est de savoir si l'intégrisme est une pathologie extrinsèque à l'islam ou si l'islam en est d'une certaine manière comptable. Question théologique, mais aussi sociologique. Je voudrais savoir quelle est la position des musulmans, de la communauté musulmane dans sa majorité sur la question de l'islamisme. Et pour poser cette question de manière plus franche encore, pourquoi n'entend-on pas davantage les musulmans quand il s'agit de condamner l'islamisme, de la destruction des Bouddhas, de Banyan, à l'affaire des caricatures.
Là, vous posez la question nodale et cruciale du passage de l'islam à l'islamisme, c'est-à-dire d'une spiritualité et d'une religion à des aberrations. Toute religion porte le meilleur et le pire, parce qu'il s'agit de l'homme avant tout. Le Coran est la référence de tout musulman, la tradition du prophète, ce sont des textes qui sont les seules autorités pour la conscience musulmane. Or, ces textes sont interprétés dans des conditions sociologiques, historiques, civilisationnelles, psychologiques, etc., etc. Donc, il y a une forme d'existentialisme islamique, en quelque sorte. Moi, je pense que l'islamisme, il faut y apporter un discernement sémantique. L'islamisme, pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé au nom de sa foi ou bien au nom d'une certaine lecture de sa religion, hein, donc le passage d'un musulman ordinaire à un musulman qui est engagé dans la société au nom d'une certaine lecture théologique, canonique, éthique, spirituelle ou idéologique, hein, ou laïque également, s'il conçoit que l'islam est laïque dès les origines. Donc pour moi, islamisme, c'est pas péjoratif dès le départ. Maintenant, il faut apporter la nuance dans cette panoplie d'islamisme. Il y a l'islamisme de gauche, l'islamisme intégré, oui, l'islam d'Yassari en Tunisie avait l'islamisme de gauche, l'islamisme séculier, l'islamisme violent, l'islamisme littéraliste, etc. Il y a un théologien déjà au deuxième siècle de l'ère musulmane qui a écrit un livre, Les tendances islamistes, c'est-à-dire les courants théologiques, canonistes, etc., etc. On a de l'islam que des islamismes, c'est-à-dire des interprétations et des vécus, hein, donc en quelque sorte. Donc maintenant, il faut apporter de la nuance dans ce débat-là. Il y a de la violence tout court, qu'elle soit d'origine religieuse ou d'origine idéologique, elle est condamnable, tout simplement. Il ne faut pas non plus justifier tout par l'islam. Et donc, voilà.
Elle est condamnable, mais est-ce qu'elle peut elle-même se réclamer de l'islam?
Oui, malheureusement. Oui,
ah, voilà,
on a vu dans l'histoire, dans toute l'histoire de toutes les religions, des lectures radicales, littéralistes, violentes. Ce n'est pas le propre de l'islam, c'est le propre de l'homme.
Alors oui, c'est un débat qui dure depuis quelque temps finalement. Est-ce que la violence, est-ce que l'intégrisme sont consubstantiels à la religion musulmane? Moi, je suis de ceux qui disent qu'une religion est ce qu'on en fait, c'est-à-dire là, nous sommes d'accord. Tariq Oubrou, évidemment, ce sont d'abord des gens, des croyants, etc., qui font d'une religion ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle a été hier ou ce qu'elle sera demain. D'un côté, d'un autre côté, il y a évidemment depuis des siècles maintenant un vrai débat, une polémique, une guerre entre deux courants, deux grands courants musulmans, ceux qui se reconnaissent plutôt dans une approche rationnelle, rationaliste, et les littéralistes. Il se trouve aujourd'hui, c'est un autre constat qu'on peut faire de manière très froide et objective, que les plus grands pourfendeurs de la religion musulmane ont la même approche et la même lecture que ceux qu'ils prétendent honnir, c'est-à-dire les islamistes littéralistes. Les deux ont une approche strictement littéraliste du texte. Et les uns, finalement, valident les autres. Donc, il faut sortir aussi de cette spirale, quelque part. Et ensuite, je dirais que la violence, évidemment, contenue dans certains aspects du texte et du corpus, d'une manière générale. Mais, encore une fois, je pense que l'approche la plus sérieuse, c'est l'approche rationnelle, c'est-à-dire tel verset, certes, même si de manière littérale il contient des appels à la violence, doit obligatoirement être apprécié selon le contexte de sa révélation, selon la période à laquelle il a été révélé, et selon, finalement, toute l'histoire.
Oui, mais est-ce que le littéralisme ne pose pas un problème particulier à l'islam dans la mesure où le Coran, à la différence de l'Ancien et du Nouveau Testament, est un livre dicté et non un livre inspiré? Et donc, ça laisse, si vous voulez, une marge de manœuvre à l'interprétation beaucoup plus étroite. La tentation du littéralisme est extrêmement forte dès lors qu'on vous dit c'est dicté par Allah lui-même et on vous dit Mahomet, c'est le grand miracle, était lui-même
L'expérience historique démonte cette idée-là. Nous avons des montagnes de livres d'exégèse pour vous dire un seul exemple. Abul Hassan al-Ash'ari, il a écrit un livre d'exégèse en 500 volumes. Si le Coran était aussi clair, aussi simple, aussi limpide, les herméneutes musulmans n'auraient pas produit des montagnes d'exégèse. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce niveau intellectuel qu'avaient les musulmans du Moyen-Âge a disparu.
Pourquoi ?
La frustration civilisationnelle, le déclin, la chute de la civilisation musulmane s'est répercutée sur la raison musulmane, qui est aujourd'hui incapable d'apporter la nuance, ce que j'appelle, moi, le cycle tronc de la modernité à bombarder le noyau qui est jusqu'alors insécable de la religion musulmane et on est dans l'éclatement total. Mmh. Et la tentation, la crispation est plus que jamais grande. C'est pour cette raison que j'appelle un discernement, un recul psychologique disponible qui permet à la raison d'être plus disponible à l'intelligence.
Mais alors justement, cette chute de la civilisation, il faudrait pouvoir, en quelque sorte, la regarder en face, s'interroger sur ses raisons. Or, on a le sentiment, et on en revient à ce que nous disions tout à l'heure à propos d'Hassan Chalgouni, que plutôt que de procéder à cet examen critique, on choisit la stratégie du bouc émissaire. Et c'est là que l'importation du conflit israélo-palestinien peut jouer un rôle, et pas seulement son importation, son rôle mondial. Tout d'un coup, toute la faute c'est Israël, ou toute la faute c'est l'Amérique, on se décharge du fardeau de la responsabilité, on l'expulse sur un ennemi extérieur, et c'est ainsi que le marasme civilisationnel dont vous parlez n'est pas regardé frontalement.
Oui, bon, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un phénomène assez complexe. Vous comprenez que c'est très compliqué, complexe, où il y a le religieux, le politique, l'instrumentalisation, etc., etc. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que musulman situé et daté dans une communauté, c'est le travail intrinsèque que nous devons faire au niveau intellectuel, spirituel, moral et civilisationnel. C'est ça qui m'importe le plus.
Alors, juste un mot par rapport au littéralisme, parce qu'en définitive, le mal réside dans un fait précis. C'est pas tant le texte coranique qui pose aujourd'hui problème et qui induit une certaine violence chez certains courants. C'est plutôt les travaux qui ont été faits à partir de ces textes par un certain nombre de littéralistes que, malheureusement, Tarek Oubrou, vous légitimez là aussi dans votre
c'est qui,
livre. Je pense au plus récent, Hassan al-Banna
le fondateur des Frères musulmans.
Des Frères musulmans, ou encore Youssouf al-Qaradawi, ou Ibn Taymiyyah, ou toute l'école hanbalite, qui est quand même le littéralisme par excellence.
Pas du tout.
Parce que
le hanbalisme, c'est l'école la plus ouverte. J'ai passé 30 ans à fréquenter.
De quoi il s'agit? Vous avez passé 30 ans.
C'est pour ça que vous disiez que c'est le hanbalisme. Le wahhabisme a phagocyté le hanbalisme qui est un...
Alors le wahhabisme,
c'est le Coran religieux saoudien qui a confisqué un Coran très pertinent quant à son approche théologique et calme.
Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous, parce que vous savez très bien que l'imam Ibn Hanbal, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, est quand même un littéraliste pratiquement fermé toutes les portes de l'exégèse.
Vous entrez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Je regrette de vous le dire.
Bah, dommage que ça vient enfin, parce qu'on aurait...
Ah oui, en plus, là, je suis dépassé.
C'est un préjugé qu'on trouve même chez des imams, malheureusement.
Bon, mais écoutez, voilà un débat à venir sur un sujet auquel vraiment je ne connais rien, mais que j'ai envie de découvrir. En attendant, j'invite les auditeurs à lire vos deux livres. Mohamed Sifaoui, vous avez publié donc chez Armand Colin, Pourquoi l'islamisme séduit-il ? Et Tarek Oubrou, chez Albin Michel, Profession imam, un livre d'entretien avec Michael Privot et Cédric Belloc. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre L'immigration en France, donc en continuité un peu avec celle-ci, mais sous un angle tout à fait différent. Mes invités seront Michel Tribala et Sami Nahir. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Marie Dalquier et Didier Lagarde. À la technique, Virginie Cassagne. Dans un instant, Jean-Noël Jeannenet.